Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce café scientifique sur la lutte contre la drogue, stupéfiante contradiction. Ce titre nous vient directement d'un petit ouvrage qui s'appelle exactement de la même manière que le titre de notre café scientifique, écrit par Madame Ludivine Ferreira et Monsieur Alain Barbeza, qui sont les deux personnes que j'ai à ma droite. À ma gauche, j'ai Madame Nathalie Guillaume-Gentil-Gross, procureur dans le canton de Neuchâtel, et Monsieur Jean-Félix Savary, secrétaire général du groupement roman d'études des addictions, donc le GREA. Nous allons ce soir nous poser la question de savoir si il est véritablement nécessaire dans une société, ou utile dans une société, de lutter contre les stupéfiants et, le cas échéant, de savoir comment on peut envisager une lutte contre les stupéfiants performante, peut-être plus performante que ce qu'elle est aujourd'hui. On va voir tout ça. Et nous allons commencer ce café scientifique en donnant la parole aux quatre intervenants. Et puis, au fil de la soirée, eh bien, vous aurez vous aussi l'occasion d'intervenir, de poser des questions. Mais je propose que nous commencions par entendre finalement d'abord les deux auteurs de ce livre, donc M. Alain Barbeza et Mme Ludivine Ferreira, puis ensuite passer la parole à, non pas la défense cette fois-ci, mais à l'accusation, Mme le procureur, avant de passer la parole à M. Savary. Alors, Monsieur Barbeza, la parole est à vous.
Merci. Alors, effectivement, avec Ludivine Ferreira, on s'est penché sur la question de la manière dont les États, à l'international, mais aussi en Suisse, luttent contre le problème de la drogue. Ce qui nous a fait nous pencher sur cette question, c'est un article qui avait paru dans Le Temps, qui parlait d'un modèle portugais dont on n'avait pas spécialement connaissance avant de lire cet article. Modèle portugais qui avait tendance, apparemment, à décriminaliser l'usage de la drogue et qui n'en faisait plus une infraction pénale. Alors on s'est penché un petit peu sur ce sujet, sans réel a priori, simplement avec un esprit de pénaliste, en se disant, de pénaliste à l'époque assistant d'André Kuhn, en se disant que le droit pénal n'avait certainement pas vocation à régler tous les maux de la société. Alors effectivement, on s'est assez vite rendu compte que ce qui se passait dans la plupart des États, c'était qu'on essayait de lutter contre les méfaits de la drogue au travers de la répression, par des politiques prohibitionnistes où on interdisait la consommation de certaines substances, en pensant, avec comme idée sous-jacente, que ça limiterait les effets négatifs au sein de la population en termes de santé individuelle, mais de politique de santé générale aussi. Alors voilà, on s'est assez vite rendu compte que le problème de la drogue est complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, et que la notion même de drogue est assez particulière, en cela qu'il existe des drogues légales d'un côté, des drogues illégales de l'autre, parfois même le même produit peut être qualifié de légal en fonction de son utilisation, ou d'illégal s'il se fait dans une utilisation qui n'est pas prévue par la loi. On aura l'occasion d'y revenir très probablement par la suite, mais la morphine utilisée dans un cadre médical est tout à fait légale. Si elle l'est dans un but récréatif, elle est illégale. Alors voilà, c'est le constat qu'on a fait, et on a aussi fait le constat que les États internationaux, la Suisse un peu moins, on aura l'occasion d'y revenir par la suite, ont misé la grande partie de leur politique en matière de drogue sur la répression depuis maintenant 50 ans, un petit peu plus de 50 ans, sous l'impulsion des États-Unis qui ont déclaré sous l'ère Nixon une guerre totale à la drogue. C'est vraiment une guerre dans laquelle il faut mettre tous les moyens pour éradiquer la drogue de la société, essentiellement des moyens répressifs, des moyens guerriers. On a fait le constat, malheureusement, que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la consommation mondiale de drogue ne diminue pas depuis ces dernières décennies. À titre un petit peu plus local, en Suisse, elle ne diminue pas non plus, elle tend même à augmenter. Alors, on a également fait le constat que, quel que soit le système répressif de l'État dans lequel on se trouve, il ne dissuade pas la consommation de drogue. Donc il y a des États très répressifs en matière de drogue, je pense notamment aux États-Unis ou à certains États d'Asie, voire du Moyen-Orient, dans lesquels la consommation est autant élevée, enfin la prévalence, le nombre de gens qui consomment dans la société est autant élevé que dans des pays où la politique est moins répressive, voire pas répressive du tout. Alors on s'est assez vite rendu compte que la prohibition, c'est pas quelque chose qui marchait bien pour limiter les méfaits de la drogue, mais qu'en plus du fait de sa relative inefficacité, elle entraîne certains maux aussi, qu'on aura l'occasion très probablement de développer par la suite, mais en stigmatisant et en criminalisant un produit, de fait on le met dans l'illégalité, et si on le met dans l'illégalité, la clandestinité, on n'arrive pas à agir très clairement dessus, ni sur les consommateurs qui sont un petit peu mis dans l'ombre de la société. Donc voilà, on a fait le constat évidemment maintenant que les outils qu'on utilise pour lutter contre les méfaits de la drogue ne sont probablement pas les bons. Dans le meilleur des cas, ils ne sont pas efficaces. On a aussi fait le constat que ces outils ils coûtent énormément. En Suisse, c'est les deux tiers du budget qui est alloué à la politique des quatre piliers en matière de stupéfiants qui est alloué au simple budget de la répression sans que ça porte vraiment ses effets. On peut même parler au niveau international du trafic international de stupéfiants qui ne bouge pas par des politiques répressives. C'est un trafic qui est là et qu'on n'arrive pas à combattre. Alors on s'est dit qu'il existait des solutions alternatives. Ces solutions, il y a la solution, comme je le parlais en introduction, du Portugal qui a prévu de décriminaliser certains comportements. On s'est rendu compte, je ne fais pas de mystère, on en reviendra après, mais qu'à notre avis, c'est une solution hybride qui n'est pas complètement satisfaisante. Et à notre sens, une solution qui serait satisfaisante pour lutter contre les méfaits de la drogue au niveau individuel, social, mais également contre le trafic, c'est la légalisation des stupéfiants en général.
Donc je te reprends au vol. Donc c'est vrai que à la suite de ce constat d'échec de la répression, on s'est donc demandé quelles étaient les tendances alternatives s'il y en avait, et si oui, dans quel pays elles étaient utilisées. Donc la réponse est clairement oui. Je n'ai pas la prétention de toutes les connaître, je ne vais pas être exhaustive, mais je vais du moins en énumérer un certain nombre ce soir. Il y a tout d'abord la prescription médicale d'héroïne. Alors en Suisse, on a cette prescription qui est appliquée depuis 1999, qui est maintenant dans la législation contre les stupéfiants depuis 2011. Aux Pays-Bas, on utilise aussi cette alternative, en Grande-Bretagne également. Il y a la prescription de méthadone qui est largement utilisée à travers l'Europe. Il y a aussi cette alternative en Suisse et également aux États-Unis, d'où finalement est venue cette tendance à la suite des militaires qui revenaient de la guerre du Vietnam. Il y a aussi l'utilisation médicale du cannabis pour des personnes notamment en fin de vie. Et cette possibilité est aussi ancrée dans la législation suisse depuis 2011. Ensuite, mais à notre sens, c'est un petit peu tard, mais il y a aussi l'accès au traitement grâce aux autorités. Mais finalement, ça arrive au moment où la personne est devant le juge et on lui propose des traitements contre son addiction. Il y a le remplacement gratuit de seringues usagées. Il y a maintenant aussi une tendance à la légalisation des drogues douces de type cannabis. Alors c'est de plus en plus réfléchi parce qu'il y a eu une étude d'ailleurs récemment que le groupement GREA a mis en ligne. C'est une recherche anglaise qui dit que de légaliser justement ces drogues douces permet de nombreux avantages, notamment économiques pour l'État, qui permettrait de lever notamment un impôt qui pourrait être réinvesti dans la prévention, dans les traitements. Mais la légalisation des drogues douces a déjà lieu dans 17 États aux États-Unis, en Uruguay. Sinon, maintenant, je vais parler de deux tendances qui sont peut-être plus sous les feux des projecteurs. c'est la tendance des Pays-Bas et du Portugal qu'Alain Barbeza a déjà mentionné. Aux Pays-Bas, il s'agit d'une dépénalisation dans les faits de la consommation de cannabis et de la possession de petites quantités de drogue. Et les coffee shops sont également autorisés sous certaines conditions. Alors, la dépénalisation dans les faits, ça veut dire que aux yeux de la loi, c'est toujours réprimé, donc c'est toujours une infraction. Mais les autorités décident, dans ces cas-là, de ne pas poursuivre les consommateurs de cannabis ou les personnes en possession de petites quantités de drogue. En droit pénal, on appelle ça le principe d'opportunité des poursuites. Il y a aussi très récemment, le gouvernement hollandais a décidé d'introduire le passeport cannabis. Alors, ça a été introduit seulement dans les provinces ou communes du sud du pays, mais son succès est, disons, mitigé dans la mesure où pas l'entier du pays l'applique, ce qui fait qu'il y a des différences entre les coffee shops du sud et du nord. Et finalement, l'impact est très restreint parce que de réduire le tourisme lié à la drogue n'a pas vraiment lieu parce que les touristes n'ira plus s'approvisionner finalement au coffee shop, mais il ira dans la rue avec tous les méfaits que cela peut engendrer. Maintenant, il y a le cas du Portugal. Alors lui, le Portugal a fait un pas supplémentaire en 2001. Il a introduit dans sa loi, en fait, il a légalisé la consommation et la détention de toutes les drogues, mais seulement pour des petites quantités. C'est-à-dire qu'une personne en détention de moins de 10 doses, c'est considéré comme une petite quantité de drogue. Et ils ont, dans les ordonnances, prévu quelle dose journalière pour chaque drogue les plus utilisées, type héroïne, cocaïne, cannabis. Mais à la différence d'autres pays aussi, c'est que la personne qui se fait arrêter ne va plus devant une autorité judiciaire, ne passe plus par la voie pénale. On passe par une voie administrative. Donc la personne est arrêtée par la police, elle est envoyée devant une commission spécialisée qui travaille finalement en réseau. Il y a des spécialistes de la santé, des médecins, des psychologues. Il y a aussi des assistants sociaux, des avocats. Donc c'est vraiment un travail en réseau qui permet d'aider le toxicomane, qui est finalement vu comme un malade et non comme un délinquant, pour l'aider dans son traitement. Si la personne est toxicomane et souhaite suivre son traitement, généralement on en reste là. Si elle est, disons, un peu récalcitrante, ils essaieront de trouver d'autres solutions, d'autres sanctions entre guillemets administratives, et finalement peut-être ils iront jusqu'à l'amende selon les cas. Mais ce qui change vraiment ici, c'est qu'on n'est plus sous le volet pénal, mais on est sous le volet administratif. Et d'un autre côté, le trafic reste réprimé, poursuivi et prohibé donc dans le code pénal au Portugal. Et le constat, plus de 10 ans après, on voit le succès de cette démarche. Alors certes, ça n'a pas connu un franc succès dès son début, il faut un temps d'adaptation, il y a toujours des améliorations à faire, mais la consommation d'héroïne et de cocaïne a fortement diminué et le nombre de toxicomanes est passé en l'an 2000 de 100 000 personnes à 50 000 en 2012. Donc on voit que c'est vraiment une diminution qui est très nette par le biais d'alternatives à uniquement la répression. Après, toutes les tendances que je viens d'énumérer, c'est des solutions qui finalement restent limitées parce qu'on s'attaque à un petit bout. C'est seulement les personnes qui sont détenteurs de petites quantités de drogue ou des consommateurs et on ne s'attaque pas à l'entier du problème. Et je rejoins ici mon collègue Alain Barbeza que la légalisation totale, est-ce qu'il y a de mieux? Parce que finalement, le marché n'est plus illégal, il n'est plus en main de la mafia, mais il devient en main de l'État qui permettrait de contrôler mieux ce marché qui est quand même grandissant. Il permettrait d'avoir un contrôle en partie sur la qualité des produits, car aujourd'hui, les produits qui sont vendus dans la rue sont frelatés, sont excessivement dangereux pour les toxicomanes qui, je le rappelle, restent des malades. Il y a aussi, avec le contrôle, la possibilité de mieux gérer, d'interdire par rapport à la vente aux mineurs. On pourra mieux axer sur cette problématique-là. On axe donc finalement sur un chemin de santé publique. Et comme je disais avant, il y a aussi ce qui pourra peut-être être privilégié par les gouvernements, c'est le fait de pouvoir lever un impôt sur ce marché. Et l'argent qui serait récolté de cet impôt pourrait être réinjecté, mais non pas que dans la répression, ou principalement dans la répression, mais plutôt dans les trois autres pans qui sont prévention, traitement et réduction des risques. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est quand même que on est tout à fait conscient que la légalisation totale, ce n'est pas une solution miracle à tous les problèmes, les dommages qui sont liés à la drogue. Mais par cette idée, par cette solution, au moins on amène de nouvelles opportunités pour permettre de mieux axer la lutte contre les stupéfiants, mais du point de vue santé publique. Mais dans tous les cas, ça pourra se faire que si tous les États partagent cette idée et qu'il y a une volonté commune. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, les auteurs de l'ouvrage sont plutôt pour une légalisation. Alors, je vais peut-être passer la parole à l'autre camp, à Madame la procureure.
Merci, bonsoir. Alors, en préambule, il y a des éléments, à mon sens, qui ne doivent pas être confondus. On entend ce soir lutte contre la drogue, et dans la phrase qui suit, stigmatisation du consommateur. La lutte contre la drogue n'est pas une lutte contre le consommateur. C'est bien une lutte contre le marché, le trafic des stupéfiants. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit en Suisse, et c'est comme ça qu'on le pratique tous les jours en Suisse. On fait grand cas dans l'ouvrage qui sert de base à la conférence de ce soir du modèle portugais, qui n'est pas vraiment différent du modèle suisse eu égard à la consommation. Il y a des explications pratiques qu'il faut donner à cela. C'est qu'aujourd'hui, la personne simple consommatrice de stupéfiants, qu'il soit des drogues dures ou douces, qui se fait contrôler dans la rue en possession d'une quantité que le législateur a voulu appeler minime, donc d'une quantité propre à sa consommation, ne risque pas une procédure pénale, une poursuite pénale, mais risque bien une procédure administrative. Et en cela, on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure pour le Portugal. Donc c'est une procédure administrative. Il est dénoncé auprès d'un service administratif à Neuchâtel, le bureau des créances judiciaires, qui rend ce qu'on appelle une ordonnance pénale administrative et qui prononce une amende qui, depuis le 1er octobre de cette année, est de 100 francs pour les drogues douces, et d'environ 300 francs, c'est selon les cas, pour les drogues dures. Voilà. Donc aujourd'hui, en Suisse, il n'y a pas de traque à la consommation, il n'y a pas de traque aux consommateurs, il n'y a pas de poursuite pénale lourde sur les consommateurs. Et donc, à mon sens, le volet stigmatisation du consommateur est bien moindre en Suisse que dans d'autres pays limitrophes, à l'instar de la France, par exemple, pour ne pas les citer. S'agissant de la Hollande également, dont on vient d'entendre parler, la dépénalisation de la consommation du cannabis a fait grand bruit il y a quelques années lorsqu'elle a été introduite. En Hollande, vous l'avez vu aujourd'hui, on vous parle de l'introduction du passeport de consommateur, du passeport hollandais, pour ne vendre qu'aux personnes vivant en Hollande. Donc on a déjà un recul par rapport à cette dépénalisation qui se voulait très large au départ en Hollande, parce que la dépénalisation montre aussi ses limites. Une chose qui me fait plaisir d'entendre ce soir et que je n'ai pas retrouvée dans le bouquin, je dois bien l'admettre, c'est qu'on admet que finalement le problème de la toxicomanie est un problème, et de la lutte contre les stupéfiants, est un problème vaste, complexe, qu'une seule personne ou qu'une seule loi n'arrivera pas à régler, à mon avis. La loi reste faite pour un nombre indéterminé de personnes et un nombre indéterminé de cas, de situations concrètes, et ce n'est pas une loi qui va pouvoir permettre de régler le problème de chaque consommateur qui se retrouve confronté à sa consommation, dans laquelle il a été plongé pour des raisons diverses, multiples, variées, complexes et interagissant les unes avec les autres. Donc, ce n'est ni la chaîne pénale, ni même le législateur qui parviendront à régler ce problème. Je tiens juste à rappeler qu'en Suisse, alors je l'ai rappelé pour la consommation tout à l'heure, le système de normes et le système de lois applicables qui résident essentiellement pour ce qui est de la répression aux articles 19 et suivants de la loi sur les stupéfiants, repose également sur un système qui se veut en cascade. C'est-à-dire que, contrairement également à ce qui est écrit dans le livre que j'ai eu l'occasion de lire, il y a vraiment une cascade et un traitement différent qui est apporté au trafiquant non consommateur, qui lui doit être, à mon avis, poursuivi pour la mise en danger concrète qu'il procure à un nombre indéterminé de personnes en fournissant des drogues souvent dures et plus rarement, en tout cas dans ma pratique quotidienne, douce, qui procure et qui engendre une mise en danger concrète de la santé et d'un nombre indéterminé de personnes. Cette personne-là est, à mon sens, un criminel et doit faire l'objet de poursuites pénales. En dessous de ce dealer, on va l'appeler comme ça, existe le dealer consommateur ou le consommateur dealer. Et là, on a des degrés aussi. On a la personne qui est tombée dans une consommation et qui doit se mettre à vendre des stupéfiants pour financer sa propre consommation, qui bénéficiera de larges atténuations de peine dans notre système en Suisse, parce qu'il a un degré de responsabilité plus faible que la personne qui n'est pas soumise à une dépendance. C'est une application des normes générales du droit pénal qui ont trait à la responsabilité. Et on a la personne qui deal, qui vend, qui trafique beaucoup plus de matériel stupéfiant que ce qu'il n'en a besoin pour assurer sa consommation. Et donc, on a un dessein clairement de lucre dans ce genre de cas et on tombe plus dans le volet du dealer dont je vous parlais tout à l'heure. Et à mon avis, cette personne-là aussi se rend coupable d'infractions et de crimes qui doit être poursuivi, en tout cas dans un état de droit. Lorsque on parle ici aussi de dépénalisation, en tout cas dans le sens où moi je le comprends, on parle bien de dépénalisation, c'est-à-dire de cesser de pénaliser et de punir, pour parler français, la consommation de stupéfiants. Alors si à un niveau psychologique et philosophique, je pourrais vivre avec une dépénalisation de la consommation, je trouve que le système suisse actuel, par cette amende, est particulièrement cohérent au niveau de la poursuite pénale globale. Je vous explique pourquoi. C'est cohérent parce que, d'une part, cette amende dont je vous parlais tout à l'heure, amende administrative, va permettre une certaine prise de conscience au consommateur qui peut-être est pour la première fois confronté à sa propre consommation. Et ça va lui permettre de faire cette prise de conscience et peut-être d'entamer un chemin de traitement aussi. Et puis, ça a une utilité pour moi de cohérence par rapport au reste de la chaîne pénale et de la poursuite pénale, car lorsqu'on entend des clients de dealers, de grands trafiquants ou de plus gros trafiquants, on a très vite l'impression que finalement, ou la défense en tout cas l'allègue très souvent, que le consommateur est amené devant la police, fait des déclarations sur les dealers auprès desquels il se ravitaille. Et s'il n'avait aucune conséquence pénale ou pénale administrative à subir de cette infraction-là ou de cette contravention, l'on pourrait alors dire qu'il a ce qu'on appelle dans le jargon chargé un dealer principal gratuitement, c'est-à-dire qu'il est venu dénoncer une personne comme auteur d'un crime, c'est-à-dire de vendre des stupéfiants, gratuitement sans avoir aucune conséquence à subir de cette participation à cette infraction. On parle ce soir également beaucoup du cannabis. On parle de la libéralisation qui a été faite dans les Pays-Bas. On parle d'un problème aussi dans l'ouvrage dont j'ai eu la lecture, beaucoup de drogues douces en parlant de cannabis. Là, les auteurs de cet ouvrage l'ont reconnu également. On a un gros problème aujourd'hui, les études le montrent, de lien entre l'usage, la consommation de cannabis et le développement de maladies psychiatriques telles la schizophrénie notamment. Les études aujourd'hui le démontrent, il y a un lien. Alors, je vous sens, monsieur Savary, réagir. Ce n'est pas parce qu'on consomme, et ça j'en ai assez conscience, ce n'est pas parce qu'on consomme du cannabis qu'on va devenir schizophrène. Les études sont assez claires. Lorsqu'on a un terrain fertile à la schizophrénie, elle aura plus de chances, de risques, on va dire ça comme ça, de se développer ou de s'activer, de se déclarer si on a fait usage de cannabis pendant une période suffisamment longue pour avoir de tels déclencheurs. Ça, c'est le problème du cannabis. Ensuite, le cannabis suisse n'a peut-être et n'a rien à voir avec le cannabis, par exemple, américain ou avec le cannabis d'autres pays. En Suisse, aujourd'hui, et je le vois tous les jours dans ma pratique, nous commençons à avoir un certain souci avec la culture indoor. Culture indoor, c'est-à-dire qu'on pousse des plantes de cannabis au-delà de tout ce qu'elles sont capables de produire dans la nature. Et cette culture indoor amène des taux de THC défiant toute concurrence. Donc c'est ce que je dis souvent aussi aux parents actuels qui ont des adolescents en âge de commencer à consommer du cannabis. Le cannabis d'il y a 20 ans n'a rien à voir avec le cannabis qu'on trouve aujourd'hui dans la rue et qui provient souvent de ces cultures indoor avec des taux de THC défiant toute concurrence. Au sujet toujours du danger de cette drogue dite douce, les scientifiques sont allés beaucoup plus loin dans ces études. Je vais citer le docteur Giroux, qui est toxicologue spécialiste au sein du CURM, donc d'un institut de médecine légale très reconnu en Suisse. J'ai eu l'occasion d'entendre une de ses conférences pas plus tard qu'au mois de mai dernier, qui démontre que des études anglaises et américaines ont réussi à démontrer que lorsqu'un adolescent consomme régulièrement du cannabis pendant un certain temps, donc c'est une consommation régulière, on ne peut pas parler d'addiction en matière de cannabis, d'après les scientifiques. Donc, on parle d'une consommation régulière sur une période assez longue. On a découvert désormais que non seulement cette consommation régulière chez des adolescents limite le développement cérébral de l'adolescent, donc on ralentit un développement cérébral qui, je l'ai appris cet été, le cerveau d'un être humain n'est pas mûr, mature, avant l'âge de 25 ans. Donc, la consommation de cannabis... La consommation de cannabis pendant des périodes clés de l'adolescence, pendant une certaine période et une certaine régularité, empêche le cerveau de se développer correctement, d'une part, et nuit à ce cerveau, c'est-à-dire provoque des lésions qui, elles, sont irréversibles. Donc au jour d'aujourd'hui, on avance évidemment dans le côté scientifique et là, Monsieur Savary sera certainement plus compétent que moi pour avancer dans ce sujet. Il semble que cette drogue dite douce ne le soit pas tant que ça, raison pour laquelle je pense que lorsqu'on discute de dépénalisation et lorsqu'on discute de légalisation de ce genre de substances, il faut être particulièrement au fait, scientifiquement, de ce que ces substances et leur consommation engendrent. Ça, c'est mon point de vue, j'ai envie de dire, presque personnel, parce qu'on m'attend sur la répression, donc je vais y venir. Lorsqu'encore, toujours dans cet ouvrage, un des arguments pour la dépénalisation et la légalisation, finalement, j'ai envie de dire, c'est de dire que la répression ne sert à rien. Elle a montré, on l'a dit, on l'a entendu tout à l'heure, elle a montré ses limites, donc ça ne sert à rien, donc cessons de criminaliser le monde global, la drogue. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sera pas une surprise, pour moi, c'est un non-sens. Si on doit effectivement cesser de faire la traque aux consommateurs là-dessus, la Suisse est déjà presque en avant-garde sur le reste de l'Europe, sauf le Portugal dont on vient de parler. Je pense que la Suisse a fait son chemin à ce sujet et je me suis déjà exprimée sur les raisons pour lesquelles je n'irai pas plus loin, en tout cas sur une dépénalisation, et je maintiendrai ces amendes. Par contre, ce contre quoi il faut absolument lutter, c'est le trafic. Le trafic qui on ne parle pas ici seulement de grandes organisations criminelles internationales et de crimes organisés avec des aspects dont on n'a pas parlé encore ce soir, de blanchiment d'argent, de traite d'êtres humains, de vente d'armes illicites également, parce que tout ça va souvent de pair. On ne parle pas que de ça, on parle aussi du trafic de rue. Vous avez vu à Neuchâtel que nous ne sommes pas épargnés, nous ne sommes plus épargnés. On a un trafic de rue important, mobile et qui se renouvelle fréquemment. Et ce trafic de rue crée un problème d'insécurité dans nos rues. Et ce problème d'insécurité, à mon avis, ne peut pas être laissé à volo. Raison pour laquelle aussi je suis contre une dépénalisation totale et une légalisation. Voilà. Sur encore un élément que j'ai pu lire dans ce ouvrage, beaucoup de gens pensent que tous les acteurs d'un trafic seront punis de la même manière. Cela est faux. La responsabilité pénale de chaque intervenant dans un trafic est analysée et au vu de cette analyse, la quotité de la peine est adaptée. Il y a un exemple dans ce bouquin, notamment en page 59, où l'on dit que la mule d'un trafic de stupéfiants est punie de la même manière que les auteurs du trafic. Cela est faux. Le tribunal fédéral a déjà eu l'occasion à maintes reprises de dire que la mule, donc ce qu'on dit concrètement, ce qu'on définit par mule dans le domaine, c'est bien la personne qui n'a strictement aucune incidence sur le choix de la qualité, de la quantité et finalement de la matière qu'il transporte. C'est une personne qui est victime, qui est utilisée par des réseaux pour transporter de manière internationale des stupéfiants, la plupart du temps, stupéfiants qui sont ingérés au risque de sa santé, au risque de sa vie, concrètement, parce que c'est de ça qu'on parle, donc il faut le dire. Et cette mule-là n'est pas punie en Suisse au même titre que le trafiquant principal, parce que, justement, dans la prise de décision, dans la responsabilité que cette personne a et dans la participation au trafic, elle ne peut pas être considérée comme une personne décideuse, ai-je envie de dire, et c'est pour ça que cette personne sera punie beaucoup plus faiblement que les auteurs du trafic qui, eux, profitent de ce trafic et se remplissent les poches avec ce moyen-là. Lorsqu'on dit qu'aujourd'hui, 65% des montants, des coûts, des finances destinées à la politique des quatre piliers sont mangées par le volet répression. Premièrement, je n'ai pas vu ces chiffres de mémoire de jeunes procureurs encore et de mémoire de mes plus anciens collègues. Aucune statistique n'a été demandée. Et j'aimerais bien savoir d'où sortent ces chiffres, finalement. Parce que dans la poursuite pénale, nous avons bien évidemment ce que nous appelons les frais judiciaires qui englobent toute une série de choses. Et je ne vois pas qu'on arrive à distinguer quelle partie de frais était destinée aux stupéfiants et qu'aux stupéfiants, parce que dans nos affaires, nous n'avons pas forcément que des stupéfiants, même s'il y en a. Enfin, bref, la remarque principale s'agissant de ces chiffres, c'est d'oublier tout un volet de la poursuite pénale que constitue également le traitement de la personne qui sera condamnée. Alors là, je parle plus, bien sûr, du consommateur trafiquant ou du trafiquant consommateur qui, dès l'instruction, donc avant la phase de jugement, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, peut bénéficier d'un traitement aux frais de l'État, la plupart du temps suggéré par l'État, par les services ad hoc, par le service pénitentiaire, par le service de probation. Nous avons toute une série de délinquants, de criminels qui sont en phase d'instruction pour un trafic de stupéfiants et qui, de par leur consommation, bénéficient sous la forme d'exécution anticipée de mesures de traitements déjà en institution spécialisée ou encore en établissement de détention pour tenter d'apporter une solution à ces problèmes de consommation et éviter une récidive à l'issue du procès pénal. Parce que c'est à ça que sert un procès pénal aujourd'hui, pas seulement à sanctionner ou à punir. La prévention générale et la poursuite pénale en général visent la réinsertion du condamné. Donc la personne sera condamnée et sanctionnée pour les faits qu'elle a commis. Elle sera traitée pour les besoins qu'elle a, les besoins spécifiques qu'elle a de traitement. Et on veillera à pouvoir la réinsérer dans la société dans les meilleures conditions qu'il soit. Tout ça pour dire que toute une partie des frais certainement attribués à la répression comprend ces frais de traitement en cours de procès, certainement. Donc on ne peut pas dire, à mon avis, que 65%, et même si on le disait, il y a toute cette partie de soins et de traitements donc qui vient d'un autre pilier, qui se retrouve dans notre pilier de répression. À mon sens, et pour la pratique que j'en ai quotidienne, je ne pense pas qu'il faille voir les choses de manière si manichéenne. D'un côté, nous avons la répression pénale, et d'un autre côté, nous avons les soins. Je viens de le dire, je viens d'expliquer pourquoi, à mon avis, les choses ne peuvent pas être vues de manière si manichéenne. Et finalement, en matière de stupéfiants, lorsque la personne est un consommateur qui a dû vendre des stupéfiants pour payer sa propre consommation, la plupart du temps, la sanction finale sera une mesure. C'est aussi ça qu'il faut savoir et qui, ça doit être su dans le public. La plupart du temps, on suspend une peine au profit d'une mesure pour permettre à la personne de se réinsérer socialement et pour permettre à cette même personne de pouvoir se soigner avant toute chose. Ça, c'était pour le volet, à mon sens, dépénalisation de la consommation. Pour le volet légalisation, il y a une chose, à mon sens, qui doit être dite, c'est que si nous légalisions en Suisse, nous serions, à l'heure actuelle, les seuls. Constitués de ce pays, à l'heure actuelle, nous serions les seuls, parce qu'en Europe et dans le monde, pour l'instant, aucun pays n'a légalisé la cocaïne, l'héroïne, le LSD, enfin, je ne vais pas toutes vous les citer ce soir. Créer, faire de la Suisse un îlot où la drogue est librement accessible, à mon avis, est un non-sens et un danger assez clair, un danger de marché noir. Ce qui me fait dire ceci, c'est simplement ma pratique. On voit tous les jours des consommateurs accros, dépendants, au bénéfice de mesures de traitement déjà, enfin d'accompagnement de traitement, je parle ici du CCPT pour les Neuchâtelois, qui sont au CCPT, qui touchent leur méthadone quotidiennement pour substituer une héroïne, une consommation d'héroïne, et qui continuent à consommer de l'héroïne et qui revendent leur méthadone au marché noir derrière. Ça, c'est juste un élément pratique, simpliste peut-être pour certains, mais qui se constate tous les jours. Si nous développons la légalisation à l'échelle suisse et en Europe, étant la Suisse sera le seul pays à ce moment-là à être légalisé, à mon avis, on va développer ce système à plus grande échelle et on verrait la Suisse isolée au milieu de l'Europe pour l'instant. À mon avis, c'est déjà le premier argument pour lequel je serais contre la légalisation. Ensuite, à mon avis, on n'a aucune solution concrète aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous a parlé de prescription par un médecin. Alors, déjà ça, à mon avis, ça se heurte au serment d'Hippocrate. Un médecin prescrire une substance létale pour aucun autre effet, hein, on a parlé de morphine, la morphine n'est pas exactement la même substance que l'héroïne, les traitements sont différents, les productions sont différentes et finalement la substance à la fin est différente, raison pour laquelle aussi, par exemple, les consommateurs actuels sous méthadone continuent à consommer de l'héroïne parce que la méthadone ne comble pas et n'amène pas l'entier des effets de l'héroïne, donc ils vont encore rechercher ces effets-là dans l'héroïne. Bref, à mon avis, je ne vois pas que les médecins accepteraient de prescrire héroïne et autres substances. Ensuite, on a un autre problème pratique, c'est qu'à ce stade, en tout cas à ma connaissance, il n'existe aucun moyen médical, au niveau des substances, de substituer la cocaïne, la MDMA, l'Exta, enfin toutes les autres substances qu'on pourrait citer ici. Je ne crois pas savoir, en tout cas, qu'il existe de moyens thérapeutiques de substituer comme la méthadone, par exemple, pour l'héroïne. Nous n'avons pas de substances pour substituer les autres drogues. Et finalement, même si l'État aime bien introduire des taxes, je verrais, enfin, les esprits changent et la société change, mais introduire une taxe sur une consommation que l'État surveillerait, finalement, on laisse des consommateurs dans une dépendance, accro à un produit, on les y laisse, on les y maintient, et en plus, on taxe la vente de ce produit. Personnellement, j'ai de la peine, philosophiquement, avec ce système-là, raison pour laquelle je suis, encore une fois, contre cette légalisation. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la procureure, et je passe la parole à Monsieur Savary.
Lourde tâche après le procureur, hein, pour me défendre. Moi, j'aimerais quand même commencer, si vous le permettez, par me réjouir d'être ici à Neuchâtel et puis dans cette université, parce que je pense que madame a raison en ce qui concerne la traque des consommateurs. Neuchâtel n'est pas le canton qui traque le plus les consommateurs. Neuchâtel a introduit en premier cette amende pour le cannabis, donc c'était un pionnier en Suisse. Et donc là, je souscris volontiers ce qui a été dit. Et donc c'est plutôt un canton qui va de l'avant, et ça, je m'en réjouis. Deuxième chose, l'université de Neuchâtel, nous, on est toujours très contents quand on va à l'université de Neuchâtel parce qu'ils sortent des choses qui nous intéressent. Alors il y a ce petit livre, tout le monde dans notre réseau a été très heureux de le lire et de voir que des juristes s'intéressent aussi à cette question. Il y a bien sûr le professeur Jean Renaud, puis donc là, en fait, c'est lui qui a publié ce chiffre là sur les en 2000, donc ça date un petit peu, mais ça vient de lui. Effectivement, je vous donne raison, beaucoup de gens essaient de calculer après lui et tout le monde s'y casse les dents, donc c'est vraiment une planche à savon, mais lui, apparemment, son calcul est solide et c'est celui qui tient toujours. Juste pour vous donner une info, moi, j'étais à un débat il y a deux semaines avec le procureur Jean Renaud à Genève, et lui, il estime à 20% à peu près le l'entier de l'appareil judiciaire, les frais de l'appareil judiciaire, y compris l'appareil carcéral, qui est complètement débordé à Genève. Donc on peut quand même penser voilà, que c'est important. En tout cas, voilà, je pense que c'était important de le souligner. Il y a aussi le professeur Guyot qui travaille sur les questions de santé. Et donc, continuer comme ça, ça nous plaît. Et je pense que c'est un bel esprit aussi d'ouverture sur la cité pour une université de s'occuper de problématiques sociales qui intéressent aussi les professionnels. Voilà. Ceci étant dit, petite couche de pommade pour directement entrer dans la critique. Et la première critique que j'aimerais faire, elle concerne le titre de la conférence, la lutte contre la drogue. Donc la lutte, effectivement, c'est un terme qu'on a longtemps utilisé. Nous, on ne l'utilise plus. Parce qu'en fait, est-ce qu'on lutte ? Et qu'est-ce que c'est la drogue ? Et je crois qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village. La drogue, c'est des plantes. C'est des plantes qui poussent toutes seules. Alors, elles ne poussent pas toutes sous les mêmes latitudes, c'est sûr, mais elles poussent. Le cannabis pousse chez nous, hein. Le pavot aussi. Et effectivement, faire une guerre ou faire une lutte contre un ennemi, ça va, mais contre une plante, c'est quand même plus compliqué. Et toujours cette idée aussi de l'offre qui crée la demande. Donc, les plantes créeraient les drogués. En fait, l'offre de drogue ferait les toxicomanes. Et ça aussi, avec le temps, on a vu que c'était faux. En fait, c'est les gens qui ont envie de drogue. Je crois qu'il faut le voir. Et la première des drogues en Suisse, et celle qui cause le plus de dégâts, je pense que vous voyez de quelle je parle, c'est l'alcool. Le plus de dégâts sur la santé, c'est le tabac. Et donc, en fait, effectivement, je crois qu'il faut aussi accepter ça. Il y a, chez l'humain, quelque chose qui fait que certains, plus que d'autres, sont attirés par des produits psychotropes. On le trouve même dans la nature. Hein, on a vu des éléphants bourrés sur YouTube et autres. Hein, je pense que vous connaissez ces vidéos. Enfin, voilà. On a ce phénomène. Donc, gardons-nous peut-être de parler de lutte et puis essayons peut-être de regarder comment gérer un problème. Et le problème, c'est probablement pas la plante, c'est pas les humains qui ont fait cette plante, elle est là. Le problème, c'est que les humains en consomment, et quand ils en consomment, dans certaines conditions, c'est très dommageable pour eux-mêmes et pour la société en général. Donc voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut poser le débat. Comme une problématique humaine, c'est d'abord autour de l'humain. L'humain et sa consommation de substances, et c'est là autour qu'il faut poser le débat. Peut-être, avant de commencer aussi directement ce que je voulais vous dire, je réagis encore une dernière fois sur ce qui a été dit avant par rapport aux études. Donc effectivement, moi je salue déjà les trois intervenants parce qu'ils ont fait un effort de documentation qui est impressionnant, donc je pense que c'est très bien. Mais j'aimerais quand même juste les mettre en garde aussi par rapport aux études en médecine. Vous tapez cannabis sur PubMed, hein, la référence médicale, vous avez des centaines de milliers d'articles. Donc, quand on a des centaines de milliers d'articles, il y en a toujours un qui va dans votre direction. Comme dans toutes les disciplines, je pense qu'en droit, c'est un peu pareil. Donc, effectivement, il y a énormément d'études. Donc, il faut s'intéresser plutôt aux méta-analyses et puis regarder les choses de manière large. Je reprends juste l'exemple du cannabis et de la schizophrénie parce qu'il est parlant. Il existe une corrélation nette entre surconsommation de cannabis et schizophrénie. Une corrélation. J'ai dit corrélation. Je n'ai pas dit causalité. C'est marrant parce que en fait, cette corrélation, on l'a pour tous les produits. Parce qu'on a calculé ça pour d'autres produits. Pour l'alcool, on va trouver la même corrélation. Et même pour le tabac. Moi, je suis fumeur. Là, je viens de reprendre de fumer. Voilà. Je fais mon coming out. Et voilà. Les fumeurs ont trois fois plus de chances d'être schizophrènes que les autres. Est-ce que ça veut dire que c'est le tabac qui rend schizophrène ou le cannabis qui rend schizophrène ? C'est peut-être aussi que les schizophrènes vont plus fumer de tabac et peut-être plus consommer de cannabis. Ça, c'est peut-être la réponse. Et d'ailleurs, voilà, vu qu'on a cette corrélation identique pour tous les produits, on peut quand même penser que cette hypothèse est juste. La question du développement cérébral, donc cette étude qui est sortie effectivement ce printemps, en fait, on a fait d'autres études aussi juste avec des ados. On les met devant... on ne fait pas ça avec des ados, on fait ça avec des rats. Mais on les met devant des voilà, on les met dans un coin inactif, sans réseaux sociaux. Et puis, on regarde si leur cerveau se développe. On met d'autres rats avec des petites roulettes, une petite piscine, deux sexes, le rat mâle et femelle. Et puis, alors là, leur cerveau, ça se développe tout différemment. C'est vrai qu'un jeune qui va être en retrait social, en décrochage scolaire, et qui probablement va aussi consommer du cannabis, va se développer moins bien, parce que notre cerveau est super plastique. C'est ce que nous apprend les neurosciences. Notre cerveau, en fait, il n'est pas programmé à la base. Ça, je pense que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on se développe par nos compétences sociales, nos relations sociales, nos expériences de vie. Et donc, notre cerveau n'est pas programmé génétiquement. Et donc, effectivement, une personne qui sera peut-être plus en difficulté, coupée du monde,
usager de drogue va aussi avoir ce problème. Donc attention avec les études, il faut vraiment regarder les méta-analyses plutôt que les analyses, c'est-à-dire que c'est ces études qui rassemblent toute la littérature produite sur un sujet et qui essayent de dégager les grandes lignes. Voilà. Bon, ça c'était juste l'introduction, mais bon. J'y vais pour la suite. Par rapport à ce débat sur les drogues. Alors là, mes préopinants l'ont dit, c'est complexe, oui. Et puis, on ne sait pas, oui. Je pense qu'il faut commencer par là. Personne ne sait, moi non plus. Autour de la table, je suis content de voir aussi que personne ne sait vraiment. On se pose une question. Par contre, on a deux avantages, et ça, il faut bien les voir. Premier avantage, la guerre contre les drogues, elle commence plutôt en 1971 avec Richard Nixon, mais le système de prohibition, il date de 1909. C'est là qu'on a décidé d'interdire l'héroïne, après avoir fait la guerre aux Chinois pour l'imposer en Chine. Hein. Donc, je vous rappelle l'épisode de la guerre de l'opium, c'est nous qui l'avons imposé là-bas. Et donc, on a à peu près un siècle de prohibition. On a des conventions onusiennes, la première en 61, c'est parmi les conventions onusiennes les plus signées par les pays. Donc on a à peu près, je crois, maintenant 194 pays signataires des trois conventions sur les drogues. Oui, c'est moi qui fais du droit, c'est vous qui faites de la santé, tout est parfait. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on a beaucoup de recul. On a 50 ans de guerre dure et on a 190 pays qui appliquent cette guerre. Et en plus, on a quand même des différences assez significatives dans leur application. Donc, bon, si on a envie de bien faire, on a ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à regarder ce qui s'est passé. C'est un peu ce qu'on fait souvent en Suisse. On a 26 cantons. Les cantons se développent différemment. On regarde, on fait du benchmarking. On voit qui c'est qui a un bon modèle. Et puis les autres cantons le copient. Sur les drogues, on pourrait faire aussi comme ça. Et donc, regardons surtout qu'est-ce qui se passe. Peut-être aussi encore un mot sur les conventions, parce que je pense que c'est important. Le système des conventions onusiennes et le système qui le précède, avant, vu que ça a commencé avant la création de l'ONU, il a toujours eu un double objectif. Et ça, c'est très important de le voir. Un objectif qui est de lutter contre le marché illégal des drogues, oui. Et le deuxième objectif, de garantir un marché légal des drogues, les mêmes produits. Et là, effectivement, il s'agit des mêmes produits. Les opiacés, il y en a plein dans les pharmacies à Neuchâtel, c'est juste des médicaments. Beaucoup de substances maintenant, le cannabis notamment, utilisé en médecine aussi. Et donc, on a une utilisation thérapeutique de ces produits, et celle-là doit aussi exister. Et c'était plutôt reconnu aussi comme ça au début. En fait, avec l'arrivée de Richard Nixon, guerre du Vietnam, mai 68, Woodstock, il faut se souvenir aussi du background. On déclare ça de guerre en 1971, et puis depuis lors, les États-Unis ont poussé le système pour aller complètement du côté de la répression, et le système s'est un petit peu emballé ces 20 dernières années avec une guerre à la drogue qui est devenue très très forte, je pense à la Colombie, au Mexique, et maintenant au Sahel, avec les problèmes qu'on connaît au Mali. Et donc, effectivement, là, peut-être c'est le bon moment de poser la question. On est sorti des rails du système initial pour se lancer dans une guerre totale contre la drogue. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, et là, je vais parler encore un peu du monde avant de revenir en Suisse, c'est que, bon, on a donc ces expériences, on a des études, mais surtout, on a des populations et on a des élites politiques qui n'en peuvent plus. Dans certains pays qui supportent le plus cette guerre à la drogue, je parle avant tout de l'Amérique latine, un petit peu de l'Asie, et puis effectivement les États-Unis d'Amérique. Cette guerre nous coûte trop cher, et je ne parle pas encore des consommateurs. Elle nous coûte cher en matière militaire, elle nous coûte cher en matière de corruption, elle nous coûte cher en matière de sécurité. Pourquoi le marché noir crée des problèmes de sécurité? C'est qu'effectivement, tous ces réseaux, hein, eh ben voilà, ils sont traqués par la police, ils s'arment, ils sont concurrents entre eux, il n'y a rien pour gérer ça. Et au Mexique, les morts, c'est qui? C'est pas tant les policiers, parce que les policiers sont payés, donc ils n'ont pas de problème avec les policiers, c'est les gangs rivaux. Hein, les gangs rivaux et toutes les balles perdues, et tout ce qui tourne autour de la lutte des gangs. Quand vous avez un système criminel qui devient plus fort que les États, l'État n'a plus le pouvoir sur son propre territoire. Et à partir de là, ce sont des bandes criminelles qui font régner la terreur. Et c'est un peu la situation de certains pays d'Amérique latine. On peut penser au Brésil, on peut penser à la Colombie. Et effectivement, là, comment on va mettre un terme à ça? Certaines personnes tout récemment, en 2011, se sont levés pour dire « ça suffit, il faut faire autre chose ». Et là, je ne parle pas encore des consommateurs. C'est juste la question de la société qui en a marre de porter le poids de cette guerre à la drogue. Alors ce message, là je parle de la Global Commission on Drug Policy, donc qui est composée d'anciens présidents d'Amérique latine, il a été aussi adoubé et rejoint par d'autres spécialistes, notamment au domaine de la santé. Je pense à notre ancienne conseillère fédérale Ruth Dreyfus, qui fait partie de cette commission, pour dire, ben, nous aussi, au niveau de la santé, on constate des problèmes importants avec cette répression. On a d'autres activistes qui sont venus, des droits humains aussi. Hein, on pratique la peine de mort pour la consommation de drogue dans le monde. Même peut-être un chiffre qui peut vous intéresser, la majorité des exécutions capitales dans le monde est conduite pour motif de drogue. Donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, beaucoup plus que les assassinats, que les viols et tout. Donc on n'est effectivement pas à Neuchâtel ni en Suisse, on a une autre politique, mais il faut voir peut-être les choses de manière globale, comme pour la réglementation du marché. On est sur un système où aujourd'hui on ne dit rien quand on exécute des gens sur simple consommation, mais où on punit les États parce qu'ils essayent de mettre en œuvre de nouveaux programmes. Donc ça, c'est important de voir ce contexte. C'est qu'aujourd'hui, par rapport peut-être aux années 90, où on parlait de réglementation des drogues, le Conseil fédéral avait un projet, on était sur le volet sanitaire. Aujourd'hui, le débat s'est déplacé sur la question plutôt sécuritaire et démocratique. C'est-à-dire que face aux millions de la drogue, comment l'État résiste ? Évidemment, on a parlé d'Amérique latine, mais est-ce que ça a une influence en Suisse ? Ça, c'est... Alors, vous dites bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, je suis aussi d'accord avec vous. Mais il y a quand même Dick Marty, peut-être vous connaissez ce monsieur, donc ancien conseiller aux États, une grande figure de la politique suisse, qui a été 20 ans procureur du Tessin, et qui a consacré une bonne partie de sa carrière à la lutte contre la drogue. Et il a fait une conférence à Genève il y a une année à peu près, où il a quand même dit très clairement que lui, quand il était procureur, on l'a empêché de remonter trop haut, et que chaque fois que son enquête arrivait quelque part, le politique l'empêchait d'aller plus haut. Donc, voilà, moi, je n'ai rien d'autre à dire, parce que je ne suis pas dans la justice et je ne veux pas juger ça, et c'est le Tessin, et ce n'est certainement pas le cas de Neuchâtel, parce que le Tessin, c'est tout proche de l'Italie et tout ça. En tout cas, voilà, enfin, cet argent, il est là, c'est 400 milliards de francs nets d'impôts, bien sûr, mais nets, bénéfices nets, le marché de la drogue au niveau mondial, c'est juste derrière le pétrole, c'est devant beaucoup de choses. C'est, donc, on ne sait pas si c'est l'armement ou le pétrole, ou la drogue qui est derrière l'armement, derrière le pétrole, mais voilà, c'est dans le trio de tête en tout cas. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de momentum. Un momentum, c'est-à-dire on a tout d'un coup tout le monde, très vite, qui commence à réouvrir le débat. On dit ça ne va plus, il faut réfléchir. Ça a été assez loin parce qu'on a même décidé de créer une assemblée générale spéciale consacrée. Une assemblée générale spéciale sur les drogues en 2016 à l'ONU, à New York. Et donc ça, c'est un truc qui s'appelle UNGAS. Et c'est rare. C'est quand il y a un vrai problème, vraiment un truc, il faut qu'on discute tous les États ensemble, on va faire un UNGAS. On a fait sur le sida, on a fait sur des choses comme ça. Et donc on en fera en 2016 sur le système actuel de régulation des drogues. Il faut croire que le débat est vif. Et donc, le fait de pouvoir discuter du système, ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et je pense que c'est la meilleure nouvelle pour nous, parce que c'est ça qu'on demande. Il faut qu'on puisse discuter de quelles sont les différentes solutions, quels sont les différents modèles. Encore une fois, on n'est pas des apprentis sorciers, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit regarder ce qui se passe, on doit regarder les chiffres, on doit évaluer. Mais au moins qu'on puisse en discuter, parce que c'est vrai que je suis un peu d'accord avec les gens de l'autre camp, excusez, c'est qu'effectivement, ce système, il ne nous a pas apporté grand-chose pour l'instant. Et puis, alors là, moi, je vais parler des consommateurs. Alors, pour les consommateurs, c'est quand même un peu catastrophique. C'est-à-dire que s'ils sont bien traités à Neuchâtel, et je vous en félicite, ce n'est pas le cas dans les autres cantons. Et on a vraiment une traque aux consommateurs que les chiffres de l'Office fédéral de la statistique confirment. C'est-à-dire qu'on a quand même, là vous pouvez les voir, hein, c'est chapitre 19 à l'OFS, criminalité, drogue, boum, vous avez des très beaux graphiques, 48% je crois pour consommation et 40% pour possession, hein, des dénonciations. Donc on est clairement là-dedans. Pourquoi ? C'est normal, parce que le dealer, il est quand même difficile à choper. Par contre, le consommateur, c'est facile. Et surtout le consommateur dépendant. Parce que le consommateur dépendant, il sera peut-être un petit peu sale sur lui. On va le trouver dans les près du marché de la drogue. Alors, c'est sur celui-là qu'on va taper. Moi, j'ai vu une fois un de vos collègues, je ne vous dirai pas lequel, c'était au mois d'avril, il avait 66 infractions de la même personne sur son bureau. Il me dit, voilà, ça, c'est depuis cette année. Donc, on a une personne qu'on a interpellée 66 fois, c'était le mois d'avril. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Où c'est qu'on consacre nos ressources? Donc, il faut qu'on puisse discuter de ça. Rappeler aussi que toutes les mesures de réduction des risques, elles sont mises en place aussi en grande partie pour lutter contre les problèmes liés à la répression. C'est-à-dire que la répression, en tant que telle, on la veut, on veut la garder. La politique des quatre piliers, on la veut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une répression, parce que si on veut une réglementation, il faut une répression. Et peut-être vous dire aussi que la libéralisation, nous, c'est un terme qu'on n'accepte pas non plus. On est contre la libéralisation. Pour nous, la libéralisation, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il faut reprendre le contrôle. Donc, s'il faut contrôler, il va falloir réprimer. Ça, c'est sûr. Et surtout, réprimer les franges aussi de ce qui pourrait rester. Donc, une répression tout à fait légitime. Par contre, la répression, quand elle s'opère sur des consommateurs qui sont dans des situations extrêmement difficiles, et ça, je vous invite quand même à faire l'exercice de... Enfin, peut-être pas faire l'exercice, mais imaginez vivre dehors. Aujourd'hui, la majorité des toxicomanes sur l'arc Lémanie n'ont pas de logement. Hein. Peut-être à Neuchâtel, je ne connais pas les chiffres, mais c'est probable. C'est en augmentation partout. Dépendant à l'héroïne, vous devez vous injecter pour la cocaïne des fois jusqu'à 20 fois par jour. Des situations très, très compliquées. Vous n'imaginez pas l'histoire familiale de ces personnes. On a souvent, enfin presque toujours, en fait, des situations complètement rocambolesques et des histoires de vie tout à fait incroyables. Et donc, vous avez déjà tout ça à porter et vous devez toujours fuir la police. Et donc, pourquoi fuir la police? C'est pas parce que vous n'avez pas forcément de pénalité. Enfin, vous allez quand même l'avoir, même une amende de 100 francs, mais aussi parce qu'il va vous prendre le produit, il va vous prendre la seringue, il va vous prendre tout ça. Et donc, vous fuyez tout le temps la police. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez n'importe où, vous injectez n'importe où, vous laissez votre seringue parce que vous ne voulez pas qu'on vous prenne avec, vous partagez les seringues parce qu'elles sont difficiles d'accès, et j'en passe. Et donc, c'est là où, en fait, on développe beaucoup de problèmes sanitaires. L'héroïne, comme la morphine, comme la méthadone, c'est le même produit. C'est juste des variantes. Et en fait, surtout les deux, morphine et héroïne, sont des produits qui ont un assez faible impact sur le corps s'ils sont pris de manière propre. Donc ça permet effectivement la prescription médicalisée d'héroïne. Et aujourd'hui en Suisse, on a donc 1500 places occupées de prescription d'héroïne. Donc il y a des médecins qui prescrivent aujourd'hui de l'héroïne. Et effectivement, c'est une solution qui fonctionne. On arrive à remettre ces gens dans le système social, peut-être trouver un appartement, peut-être un travail, et puis effectivement on gère la dépendance à côté, puis on fait le travail psychologique avec. Aujourd'hui, les seuils d'accès sont élevés, donc il y a des gens qui ne sont pas dans ces programmes. Nous, on demande d'abaisser les seuils, et c'est vrai qu'à Neuchâtel, vous n'avez pas de programme de prescription d'héroïne, et peut-être que pour ces personnes-là dont vous parlez, moi ça ne me surprend pas du tout, en fait, parce que les personnes qui sont clientes des programmes de prescription, ils n'arrivent pas à s'en passer. Donc, il faut leur donner le produit et là, on peut travailler. Alors, si on leur donne la méthadone à la place, ça ne joue pas parce qu'effectivement, la méthadone, c'est déjà pour des gens qui sont un peu plus prêts. La méthadone, vous n'avez plus l'effet. Vous avez juste la dépendance qui n'est pas là. Vous n'avez plus l'effet. Donc, il y a des gens qui ont peut-être toujours besoin de ça avant de passer à la méthadone. D'ailleurs, en fait, les programmes de prescription d'héroïne sont limités dans le temps. C'est pour faire passer les gens à la méthadone. Puis après, la méthadone, c'est pour les faire passer à plus rien du tout. Donc, je pense que là, on a, avec la prescription d'héroïne ou répression, on a un peu les deux modèles. C'est-à-dire qu'on peut ou bien les gronder parce qu'ils ont fait une bêtise, ou bien essayer de les aider et ça marche. Et la réglementation du marché, pour nous, typiquement, la prescription d'héroïne entre dedans. C'est-à-dire que c'est une manière de réglementer ça. Et effectivement, vu qu'on parle de drogue et pas de pain au chocolat, évidemment qu'il va falloir réglementer ça différemment que les pains au chocolat. Et évidemment qu'on ne va pas mettre ça à la Migros. Et effectivement, tous les systèmes de réglementation, il faut les penser plutôt sur le modèle du médicament, sur le modèle de la pharmacie, sur le modèle d'une interface, en tout cas, sécurisée entre État ou représentant de l'État et consommateur. Donc ça me paraît aussi quelque chose de très important. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais peut-être encore une dernière chose pour laisser la parole à la salle et aux autres. La question de l'offre et de la demande et de la consommation et le lien avec la répression. Donc, on a beaucoup calculé ça. Comme vous vous en doutez, c'est vraiment le point. Et on n'est jamais arrivé à montrer que la répression a fait baisser la consommation. Alors, on ne l'a jamais montré, mais par contre, en faisant toutes ces recherches, on a trouvé d'autres choses. C'est-à-dire qu'en augmentant la répression, on a un effet direct, observable dans tous les pays, c'est l'augmentation du crime. C'est-à-dire qu'on a en fait une augmentation de la violence des réseaux criminels. On bouge un petit peu le réseau, on met de la dynamique là-dedans, plein de nouveaux acteurs, plein de violence pour se partager les parts, plus grand stress, plus de risques pour les acteurs du marché, donc besoin de plus de retours sur investissement aussi. Donc ça, c'est vraiment une conséquence qu'on a. Elle est portée par toute la société. On a, comme je vous le disais, la dégradation de la santé des consommateurs. Et à ce titre-là, par exemple, les pays répressifs, hein, comme la Russie, l'Iran ou certains États de l'Asie du Sud-Est, c'est par dizaines de milliers qui comptent les morts ces années. Enfin, donc, en fait, on a vraiment des gains importants. Donc, on a cet effet sur le marché. Cet effet existe aussi en Suisse. D'ailleurs, FEDPOL, donc l'Office de la police fédérale, fait un rapport tous les 6 mois sur la situation du marché des drogues. Et toutes ces dernières années, ils montrent 2 tendances qui sont très préoccupantes pour nous. La première, c'est la fusion du marché de toutes les drogues. C'est-à-dire qu'on a effectivement eu une période en Suisse un peu plus souple, et puis on a tout fermé en 2004 et surtout en 2008. Alors, je ne vous fais pas l'histoire politique, on n'a pas le temps, mais à ce moment-là, il y a eu des signaux politiques. On a fermé les magasins de cannabis, je crois qu'à Bienne, hein, votre ville voisine, et on a eu jusqu'à 32 magasins de cannabis à Bienne. Vous voyez l'ampleur, donc ça devenait effectivement le supermarché de la Suisse romande. C'est peut-être pas non plus tout à fait souhaitable, mais en tout cas, depuis lors, ce qui s'est passé, c'est que ce marché gris a été... supprimés, et les réseaux de l'héroïne et de la cocaïne ont tout de suite repris ça. Pourquoi on parle du cannabis? On ne parle pas non plus du cannabis parce que c'est drogue dure, drogue douce. Non, on ne parle pas de drogue dure, drogue douce, on parle d'usage dur, usage douce. Le cannabis, on peut être dépendant, et c'est pas un truc anodin. Mais par contre, c'est 75% du marché de la drogue. C'est la majorité, la grande majorité des consommateurs. C'est la drogue préférée des Suisses, si on veut. Et donc, si on veut faire quelque chose sur le marché et contre la criminalité liée à ce marché, si on arrive à faire quelque chose sur 75% du marché, c'est déjà ça. Après, on verra ce qu'on fait avec les 25%, peut-être aussi avec les ressources de la répression. Tout ça pour parler de ce lien consommation-répression, pour vous dire aussi que, en fait, on a plutôt trouvé l'inverse. Et ça, c'est bizarre. Et puis, je suis aussi d'accord avec vous, c'est bizarre. Mais on a aussi plutôt trouvé que quand on assouplissait les règles, en fait, on avait moins de consommation. Il y a pas mal de cas étudiés pour ça. J'en citerai peut-être juste 2. Le Portugal, parce qu'on en a parlé. Puis la Suisse, parce qu'on est en Suisse. La Suisse a connu une chute vertigineuse des nouveaux consommateurs d'héroïne par injection ces 20 dernières années. C'est un truc qui a été publié partout. Les autres pays n'ont pas connu ça. Et nous, on a mis en place la prescription d'héroïne, on a mis en place les salles de consommation, et on a une réduction des nouveaux consommateurs par rapport à 90, les années 90 à Zurich, qui est d'un facteur 5. C'est quand même pas mal. Donc les nouveaux consommateurs, les anciens sont toujours là. Et quelle est l'hypothèse qui a été, donc c'est ça, c'est les conclusions, ça a été publié dans l'Lancet, qui est donc un des plus grands journaux médicaux, donc c'est pas non plus juste des réflexions de bistrot, c'est justement l'effet de la médicalisation des drogues. Quand vous médicalisez les drogues, en fait, vous montrez ce qui se passe. On parle des gens comme des malades. Il y a un hôpital, vous avez un toxicomane qui va à l'hôpital. Alors en fait, vous voyez ça, le toxicomane est un malade, il va à l'hôpital, en fait, prendre des drogues, ça rend malade, en fait. Après, il faut des soins. C'est pas très sympa. Par contre, quand tout est caché, qu'on voit rien du tout, prendre des drogues, c'est quoi? C'est l'interdit, c'est l'attrait de l'interdit, c'est tenter ses limites. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, effectivement, les consommateurs, ils nous disent souvent ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un attrait, on voit rien. Pourquoi aux Pays-Bas, la consommation de cannabis est basse chez les jeunes? Parce qu'ils voient tous les jours des coffee shops avec de vieux consommateurs dedans à 8 heures du matin en train de consommer du cannabis, puis ça ne fait pas envie. Donc en fait, le truc, c'est qu'il faut peut-être aussi voir ça. La drogue est dans la société, elle est là. Vous allumez ce soir la TV en rentrant chez vous, vous avez une chance de tomber sur Breaking Bad ou sur d'autres séries comme ça, où on a la drogue à peu près partout. La drogue est là, les gens la côtoient, que ce soit par les dealers, par des gens, vous êtes dans une soirée, vous voyez, tiens, hop, elle est là. Donc parlons-en, il faut en parler. Les ados, un ado de 15 ans, il est confronté au cannabis, ça ne veut pas dire qu'il va en prendre. Un sur deux ne le laissera pas, mais un sur deux le laissera. Il est confronté à ça. Il faut qu'il puisse en parler avec ses parents. Il faut qu'il puisse en parler avec son prof. Il faut qu'il puisse trouver des informations auxquelles il croit. Et ça, c'est la grande question de la santé publique. C'est qu'il faut être crédible dans son message. Pour être crédible, il faut avoir un discours de vérité. Quand on entend M. Darbollet et d'autres au Parlement nous dire qu'il n'existe pas de problème d'alcool à la campagne en Suisse, mais que c'est que dans les villes, voilà... Moi, je m'en... Et puis que le cannabis rend forcément fou, bête. Et voilà. Et bon, quand vous avez 15 ans, vous ne croyez plus à ce message. Alors que nous, on a des infos à leur donner. On a des choses à leur dire. Parce qu'effectivement, on peut devenir dépendant du cannabis. Et donc, ce lien avec la jeunesse, il ne faut pas le perdre. Et c'est dans un système pacifié qu'on peut l'avoir. Le Portugal, justement, c'est un bon exemple. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la Suisse, parce qu'on est... Et vous n'avez pas dit le nom de la commission, c'est intéressant. Les commissions, ça s'appelle les commissions de dissuasion. Donc voilà, le but est clair. Mais on n'est pas là dans une procédure, on est dans quelque chose de civil. Et en fait, on voit des adultes qui sont bien intentionnés à votre égard et qui ont envie de discuter avec vous de votre consommation. Voilà. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, effectivement, des choses se passent. Et effectivement, au Portugal... on a constaté une diminution de la consommation chez les jeunes, encore une fois, donc les nouveaux consommateurs. Voilà, mais je crois que je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup à tous les intervenants. Alors j'aurais eu bien envie de faire un deuxième tour de table, mais je crois qu'on va peut-être donner d'abord la parole au public et puis on finira peut-être par un dernier mot de chacun. Donc si quelqu'un désirerait prendre la parole, il est le bienvenu et je lui passe volontiers un micro. Enfin voilà, le micro.
Dans les années 80, M. Milton Friedman, qui avait aussi réfléchi à ça, qui d'ailleurs avait reçu le prix Nobel d'économie, avait préconisé la libéralisation de la drogue, parce que ça diminuerait les arrachages de sacs et les cambriolages. Personnellement, j'ai connu une infirmière qui s'est vue arracher son sac en venant au travail à l'avenue de la Roseraie, en venant à la clinique d'ophtalmologie. Une dame s'est fait arracher son sac au triangle des Allées à Colombier. Une autre sur un passage à niveau près de Neuchâtel, dont un monsieur l'a tiré juste avant que le train n'arrive. Une grand-mère s'est fait extorquer de l'argent par son petit-fils sous la menace pour pouvoir se procurer de la drogue. Si le fruit défendu devenait moins défendu, il perdrait de son attrait et il perdrait peut-être aussi de sa valeur et on aurait peut-être moins d'arrachage de sacs et de cambriolage. Merci.
Alors effectivement, c'est un des effets qu'on reproche à la criminalisation des stupéfiants, hein. C'est un petit peu tautologique ce que je veux dire, mais par la criminalisation, on rend la substance prohibée, on crée une infraction. Dès lors que la substance est prohibée, elle est chère. Une substance illégale est chère, une drogue illégale est chère, une drogue légale n'est pas chère. Maintenant, le consommateur qui est dépendant, il n'a pas d'autre choix que de se procurer cette substance qui lui permet... de vivre dans des conditions évidemment qui ne sont pas enviables, mais pour lui, il n'a pas d'autre choix que d'en consommer. Dès lors que la consommation lui coûte énormément cher, évidemment, il est contraint de ce qu'on appelle en criminologie innover. Il n'a pas forcément l'argent pour se procurer cette drogue. En tout cas, dans la très grande majorité des cas, on est dans des phases de marginalisation où les consommateurs n'ont pas l'argent, donc ils innovent. Et ils innovent, il y a plusieurs façons d'innover. Une des façons les plus efficaces, il faut bien le dire, et qui permet de se procurer de l'argent très rapidement, c'est effectivement de commettre des infractions contre le patrimoine. Il y a une autre solution aussi, c'est la prostitution. Ça permet de se procurer de l'argent facilement. Évidemment, c'est deux choses qui ne sont pas du tout enviables, et c'est des effets qui ont été induits par la criminalisation des drogues en les rendant illicites. Alors, de fait, si les mêmes substances ne sont plus illicites, le prix lui-même va baisser, et donc elles seront plus accessibles. Il n'y aura pas forcément la nécessité de commettre ce genre d'infraction pour s'en procurer.
Je compléterai juste par un chiffre. Le professeur Kilias, le professeur de criminologie à Zurich, a calculé l'effet de la prescription d'héroïne quand c'est entré en vigueur. Et pour les sacs, hein, justement, les crimes contre la propriété, les délits contre... Non, les crimes... Enfin, les délits contre la propriété, c'est 94% en moins pour les personnes qui ont commencé le traitement. Donc 94% en moins, c'est quand même 20 fois moins. Hein. Donc c'est-à-dire que sur 20 sacs arrachés, il n'y en a plus qu'un qui est arraché après. Donc c'est quand même un résultat intéressant.
Voilà. Oui, moi en fait, j'aimerais d'abord aussi parler... plus précisément du mot drogue, parce que enfin là, ce que j'entends, on parle de cannabis autant que d'héroïne pour la drogue. Et puis moi, je pense qu'on pourrait différencier le cannabis et l'héroïne, parce que je pense que l'héroïne mène bien plus au crime que le cannabis, et qu'il y a beaucoup de gens en Suisse qui fument du cannabis ou qui le boivent ou qui le mangent. Et que c'est pas très dangereux pour nous en fait, parce que souvent ils sont à 8h du matin peut-être aux Pays-Bas au café, et je pense qu'on pourrait plus à différencier les deux drogues. Voilà.
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Hein. Effectivement, que bon, nous, on s'intéresse plutôt aux consommateurs dépendants qui ont des soucis, mais c'est vrai qu'il faut aussi rappeler que la majorité des consommateurs ne sont pas dépendants et n'ont pas de soucis. Hein, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Après, effectivement, il y a des usages qui peuvent être durs, y compris pour le cannabis. Mais peut-être une chose, on a aussi des études qui ont essayé de calculer les dommages des différents produits. Et on a fait une échelle qui maintenant est plus ou moins consensuelle au niveau mondial. Ça date de 2010. Et on arrive à classifier les produits. Donc les produits se valent pas tous, ça c'est sûr. Il y en a qui sont beaucoup plus dangereux que d'autres. Mais il y a quand même un effet pour tous les produits. Comme quand on mange une bonne côte de bœuf, il y a aussi un effet sur la santé, peut-être, vous me direz. Mais voilà. Ce qu'il faut retenir peut-être, c'est qu'effectivement, dans ce classement, le produit qui sort numéro 1, c'est l'alcool. Ça, c'est... On va retrouver ça partout. Et là, ça nous repose la question, quand on posait la question, qu'est-ce que c'est une drogue ? Voilà, ça c'est... Qu'est-ce que c'est une drogue ? Bonne question. Parce qu'effectivement, si on regarde la définition chimique d'une drogue, mais l'alcool, c'est une drogue. Si on regarde la définition sociale, c'est une drogue. Quand on regarde les comportements des gens indépendants, c'est une drogue. Donc, il faut inclure l'alcool dans notre réflexion sur les drogues, aussi la cigarette. Et même aujourd'hui, on parle, vous l'avez peut-être entendu, d'addiction aux jeux d'argent, voire d'addiction à Internet. Donc, c'est peut-être même pas le produit qui fait le drogué, en fait. Sans drogue, on peut devenir drogué. Donc ça doit peut-être un petit peu repositionner ça. Effectivement, le problème, c'est plutôt l'addiction. Hein. Et ça, on peut vous rejoindre là-dessus.
Alors, ok, j'ai pas l'habitude d'avoir un micro dans la main, mais alors tout d'abord j'aimerais remercier cette plateforme de pouvoir en fait parler de ce sujet-là, parce que je pense que les drogues font peur à beaucoup de gens, que la peur a cet effet de stigmatiser, et puis que au final, j'étais choqué par les mots de Madame la procureure, dans le sens où vous dites que si la Suisse... Elle serait la seule, en fait, finalement, à être dans l'Europe une plateforme de la drogue légale. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, que la Suisse a su être précurseuse dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine sanitaire ou international, au niveau des aides, et puis qu'il faut sortir de ce schéma de peur, de discuter des drogues, de discuter de cette chose-là, puis d'aller de l'avant, pas simplement mettre les pieds contre le mur et puis taper sur ceux qui consomment... En deux mots, hein, je ne vous vise pas personnellement du tout, hein, c'est sur le principe.
Alors, lorsque je parlais de peur, ce n'est pas une peur, c'est un constat pratique à mon sens. Si la libéralisation, donc la légalisation totale de toutes les substances ne se fait qu'en Suisse, pour moi c'est un non-sens. Alors, on peut discuter de la légalisation, être pour ou contre, mais réagir au niveau vernaculaire, enfin local, de notre petit pays au milieu de l'Europe est une hérésie, à mon sens, parce que le problème est européen. On a des trafics qui sont européens, on a des voies de circulation des stupes en fonction de la marchandise qui sont différents en Europe. Il faut prendre conscience de tout ça. Et on est dans un système globalisé pour l'économie légale, pour l'économie illégale. On est au même niveau avec des trafics qui sont internationaux, sans droits de douane et sans impôts. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on aura un gros problème de marché noir. Parce qu'outre le consommateur, il y a aussi des gens qui aiment bien se faire de l'argent. Et le risque est d'avoir des failles dans le contrôle, parce que tout contrôle a une faille, des failles dans le contrôle et du marché noir qui se fasse avec de la marchandise qui est distribuée légalement ici en Suisse. Donc, à mon avis, légaliser dans notre petit pays seul va créer d'autres problèmes qu'on n'a pas aujourd'hui. Ce n'est pas une question de mettre les pieds au mur.
Alors effectivement, la Suisse seule, comme un îlot au milieu de l'Europe, ne peut pas imposer sa vision des choses. C'est certain qu'on peut envisager quelques problématiques si elle faisait sa petite politique de son côté. C'est une réflexion globale, je crois qu'on l'a tous bien dit. Maintenant, rien n'empêche la Suisse de se montrer encore une fois novatrice dans ce domaine-là et de proposer des pistes de recherche. Je ne crois pas qu'il s'agit d'être attentiste et puis d'attendre une hypothétique réaction de l'Union européenne, par exemple, sur ce sujet qui probablement tardera à venir. Donc on peut aussi donner une certaine impulsion et puis le montrer. C'est certain que si on mettait en place un système de légalisation en Suisse, on pourrait éventuellement se voir confronté au marché noir si les pays limitrophes alentours ne légalisaient pas l'ensemble des drogues. Maintenant, je ne suis pas sûr que le marché noir il serait forcément plus élevé que ce qu'il est actuellement.
J'aimerais juste réagir aussi à ça. Si vous permettez. Donc, déjà, premier exemple aujourd'hui à Genève. Genève est le supermarché de la drogue de l'Est de la France. Je crois que un cinquième de la quantité des drogues vendues à Genève est pour les Genevois, d'après ce que j'ai compris, le chef de la police de Genève. Donc il y a cet effet. Il est déjà présent et je suis d'accord avec vous, il n'est pas du tout souhaitable. Et malheureusement, on n'est pas le Portugal. Hein. Le Portugal, c'est super beau. Moi, j'adore le Portugal. Mais bon, mais surtout, le Portugal, c'est vraiment tout dans un coin en Europe. C'est comme le Colorado qui a légalisé aussi le cannabis aux États-Unis. Au milieu des montagnes, ça va. En Suisse, on est au beau milieu du passage. Donc effectivement, le problème de l'îlot, il se pose. On est dans une zone peuplée. Et c'est le problème de la Hollande. Ils sont mal placés, la Hollande. Hein. Bonne idée, mais mal placés. Et il y a effectivement des difficultés. Bon, après les difficultés, il faut voir, on peut les gérer. Les difficultés avec la drogue, ce ne serait pas la première qu'on a d'ailleurs. Hein. Il y en a aussi toute une série, donc il faut les mettre sur la table et puis voir comment on peut faire. Il y a des solutions qui sont travaillées aujourd'hui, elles devraient sortir bientôt, vous allez en entendre parler. Elles prennent en compte ces questions-là. Effectivement, qu'on ne peut pas avoir un marché des drogues pour l'Europe, on aura en plus encore plus de problèmes, en plus avec la fiscalité, on va aussi avoir des problèmes avec ça. Donc il ne faut absolument pas le faire. Et effectivement, on a des ressources, alors on peut trouver des solutions. Et rappelons-nous de la Suisse quand même, parce que comment ça a marché cette histoire? Une autre chose aussi que j'aimerais juste rectifier, on a dit que la Suisse est en avance sur les autres pays. Ce n'est plus vrai. La Suisse n'a plus bougé depuis 10 ans. Et puis les autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié la Suisse. La prescription d'héroïne se répand partout, maintenant au Danemark et en Norvège. Les pays scandinaves ont toujours été très hostiles à la réduction des risques. On adopte ça là-bas, on en parle en France, on en parle dans beaucoup de pays. On est en train de mettre une politique style 4 piliers à peu près partout en Europe. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies. Vous aurez tout là-dessus, par pays. Vous avez des rapports qui font des tendances générales entre pays. Et là, la tendance est très claire. Donc les autres pays nous ont rejoints. Mais alors, qu'est-ce qu'on ne s'est pas pris dans les années 90 Et là, dans les années 90, quand on a mis en place la pression d'héroïne, la réduction des risques et les salles de consommation, nos pauvres diplomates suisses-allemands ont été là-bas, à Vienne, chaque année, se faire battre pendant 4 heures pour se faire passer un savon par l'ANCB, qui est l'Agence de contrôle des stupéfiants. Donc, oui, on a été précurseurs. Oui, on s'est fait taper dessus. Oui, ça nous a amené des problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être de réduire un petit peu la répression dans certaines zones, ça a amené de nouveaux consommateurs étrangers. Mais ça fait 20 ans qu'on est dans cette situation. Et effectivement, elle n'est pas souhaitable. Là, maintenant, des services pour des personnes qui ont des difficultés aussi avec les drogues existent dans d'autres pays. Donc, il y a moins ce problème. Et effectivement, il y a une phase de transition. Mais ce que je disais au début, je pense que c'est important. Le momentum. Aujourd'hui, ce débat est ouvert dans tous les pays. Et donc, on peut penser que ça va bouger. En quelques années, ça va bouger tellement vite. Là, il y a la Tchéquie qui a rejoint aussi le camp de ceux qui ont changé de système. La Hollande tient bon. Et peut-être encore une chose avec le Portugal. Le Portugal, nous on a de bons contacts avec les Portugais, vous l'avez compris, et aussi leur modèle est très intéressant. Je connais bien le coordinateur du système drogue au Portugal. Et puis, il me confirmait il y a 2 semaines que pour l'instant, pas de coupure sur le budget drogue. C'est-à-dire tout ce système, c'est quand même luxueux, hein, les toxicomanes, au lieu de les mettre en prison, on doit encore leur demander leur avis et tout ça. Tout ce système-là, qui coûte quand même un petit peu, n'est pas mis en cause. Je pense que vous avez vu les journaux, on coupe tous les budgets qu'on peut au Portugal. Pour l'instant, on ne touche pas celui-là. Il faut croire qu'il y a vraiment un effet positif. Donc effectivement, s'il y a des problèmes, bah oui, affrontons-les, et puis on verra après. Dernière chose, la pression d'héroïne, les salles de consommation, l'échange de seringues, toutes les mesures qui ont finalement marché ont été des initiatives locales. Malheureusement, ça n'a pas été des grands scientifiques à l'université qui avaient la solution. C'est des gens qui ont essayé des petites choses, puis souvent ça ne marchait pas, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui marche. Les salles de consommation, vous savez comment ça s'est passé? C'est les consommateurs eux-mêmes qui ont commencé à s'organiser au Volgroth et à Zurich et à la Rotefabrik à Berne, des centres autonomes, donc des squats. Et en fait, aidés par des travailleurs sociaux qui ont vu ça, hors mur, on a eu l'idée du premier local d'injection à Berne et c'est remonté comme ça. Et donc, on voit bien que c'est des petites expériences, des petits bouts de... On ne sait pas, donc on avance dans le noir, il faut peut-être un petit peu regarder. Effectivement, on ouvre un local de consommation à Berne, des programmes à Zurich, il y a des toxicomanes romans qui vont à Berne, qui vont à Zurich. On a ces effets-là. Mais avec le temps, voilà, et peut-être le temps peut aller plus vite aujourd'hui, on peut trouver des solutions plus globales. Voilà.
Parlant de lecture de journal, personne n'a lu dans le journal. Moi, j'ai lu quelque chose, mais je crois que c'était dans 20 minutes. Alors, il paraît qu'on aurait démantelé un réseau très important. Tout le monde se félicite parmi, mais la tête, elle est à l'étranger. On n'y touche pas. On ne veut pas aller la chercher là-bas. Alors, ça sert à quoi? C'est la poudre aux yeux.
Je comprends votre frustration parce que je la vis aussi. Notre système se limite à nos frontières. Pour faire des actes d'instruction et autres à l'étranger, il faut passer par des commissions rogatoires internationales. Et malheureusement, les pays fournisseurs, producteurs de stupéfiants sont peu collaborants à l'international. On va dire ça comme ça. Ou sont carrément pas partis aux conventions internationales de collaboration d'entraide en matière pénale. Donc on en est limité parfois à gérer les problèmes que nous avons chez nous et à ne pas pouvoir effectivement couper la tête du trafic. Et ça, c'est pas un problème suisse, c'est un problème européen, c'est un problème global dans la lutte contre le trafic des stupéfiants. Et tant que les volontés politiques dans les pays fournisseurs ne changeront pas, c'est en ça que je n'étais pas tellement d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui se passe au Mexique, ce qui se passe en Afghanistan, nous concerne, parce que c'est quand même leurs marchandises qui se retrouvent dans nos rues et auprès de nos consommateurs. Donc là-dessus, on a un travail international à faire, plus que au coup par coup, par dossier.
Juste l'Afghanistan, non ? L'exemple est éclairant parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Le plus grand trafiquant en Afghanistan, comment il s'appelle ?
Il s'appelle Karzai. Donc ce n'est pas le président, c'est le frère du président. Et ça, tout le monde le sait. Et parlant de 20 minutes, vous avez aussi vu qu'on a une année record de production d'héroïne en Afghanistan. Donc on n'en a jamais eu autant depuis que les Américains sont là. On est dans le nation building. Donc le nation building, c'est compliqué. Hein, je crois que vous avez vu, les Américains s'en sont rendus compte en tout cas. C'est compliqué et donc il faut faire alliance avec ceux qui ne sont pas talibans. Alors ceux qui ne sont pas talibans, c'est qui ? C'est tous les chefs de guerre qui ont quitté l'Afghanistan après la guerre civile dans les années 90, tous des trafiquants de drogue. Et donc, aujourd'hui, nos alliés en Afghanistan, ce sont les trafiquants de drogue. Nous avons fait alliance avec eux. Les champs de pavots s'arrêtent à l'entrée des camps américains, des bases américaines. Et donc, c'est là on voit aussi qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond. Quelle politique on est en train de mener ? Et quels sont les États qu'on a en face ? Effectivement, cette question nous dépasse, elle dépasse les États. Elle a dépassé aussi les États-Unis pendant la prohibition de l'alcool dans les années 20. Je pense qu'il faut aussi s'en souvenir. Ce n'est pas les incorruptibles qui ont cessé la violence aux États-Unis. C'est la levée de la prohibition en 1933. Voilà.
Oui, je voulais faire une intervention en tant qu'intervenant en dépendance, en fait. Parce que je trouve qu'il y a un secteur qu'on a peu développé, c'est celui de l'intervention thérapeutique, en fait. On en dit peu de choses. On dit sur un bord qu'il y a des gens qui vont choisir la marginalité, c'est une proportion irréductible. Ensuite, il y a des gens qui seront attirés par le produit et qui, peut-être, quand ils rencontreront des problèmes, peut-être par voie pénale et qui rencontreront des conséquences, auront envie d'engager un traitement. Donc, c'est intéressant, je voulais juste dire, parce que je vous ai vu hocher la tête avant, M. Barbara, quand Mme la procureure l'a dit, pour travailler dans une institution qui reçoit beaucoup de gens par l'office d'exécution des peines, c'est effectivement souvent une voie d'accès. On a vu même des fois une meilleure implication dans la thérapeutique avec des gens qui sont venus, entre guillemets, de force, parce qu'à un moment donné, ils opèrent quand même en choix d'être en thérapie au lieu d'être en milieu carcéral. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger quand même par rapport à l'option qu'ils prennent à ce moment-là. Deuxième chose, on s'est peu intéressé aussi, enfin on s'intéresse à l'international, à des mesures, à des polices, à des choses comme ça, tout en disant qu'aucune d'entre elles sera la panacée. C'est pour ça que j'ai envie de dire quelque chose à propos de la thérapeutique. C'est qu'il y a eu des études croisées en ethnologie de la santé qui disent en fait qu'il y a certains invariants, quand quelqu'un a réussi en traitement, en fait il est passé par certaines étapes, il a maturé dans certains processus. Et on néglige en fait que ce problème de dépendance, au-delà d'incriminer un produit ou un autre, ou de les appeler dans des catégories légales, soft, drogue dure, etc., en fait, il y a une pathologie du lien. Et on dit peu de choses, cette pathologie du lien, et notamment de quelque chose de plus normatif en matière de bon lien, c'est-à-dire sur l'axe de la promotion de la santé plutôt, de dire qu'est-ce qui serait finalement des garanties ou vers quoi est-ce qu'on doit tendre pour qu'une personne puisse quelque part sortir d'une pathologie du lien, et que ce soit du jeu excessif, que ce soit une drogue ou n'importe quoi. Et là, je trouverais intéressant finalement de se donner les moyens de voir de manière transculturelle aussi, parce qu'on est un pays qui a beaucoup de ressortissants d'autres nations, comment ça se passe. Et là, l'ethnologie de la santé avait quelque chose d'intéressant à dire, notamment par rapport à quatre invariants que vous avez identifiés. Je ne sais plus d'où ça sort, c'est un peu loin dans mes études, ce truc. Mais toujours est-il qu'il y avait quelqu'un qui avait dû investir la personne toxicomane dans une sorte de capital confiance. C'est-à-dire de dire que quelqu'un peut s'en sortir. Il y a une sorte d'acte gracieux à la base. Ensuite, la personne pouvait trouver des gens qui avaient passé par le même parcours, donc pouvoir s'identifier à quelqu'un qui est sorti de ce qui semble être insurmontable pour le moment. Et puis, au-delà de ça, il y avait une inclusion sociale, effectivement, mais qui n'est pas forcément le premier pas, alors que des fois, je trouve qu'on travaille très vite en réduction des risques, sur l'inclusion sociale, ou comme ça, en créant des gens dépendants aux substances médicamenteuses, notamment, parce qu'on remplace l'alcool par les benzos, on remplace l'héroïne par la méthadone, avec au début de la prise en compte des mesures, l'idée de diminuer et puis d'atteindre une pleine liberté. Et en somme, on reste inscrit dans ces traitements pendant des décennies. Donc, il me semble qu'on manque le coche par rapport à avoir une force de proposition en matière de thérapeutique. Moi, c'est là qu'il me semble que quelque chose n'est jamais dit, ou peu dit, ou alors peu expérimenté aussi sur le terrain, parce que justement, on n'a pas forcément les moyens de faire quelque chose d'expérimental. Les gens peuvent être en traitement parce que sinon ils seraient en prison, donc ça c'est une offre quelque part, mais voilà, moi j'aspire à un peu plus d'offres, et je ne sais pas ce qui existe, peut-être c'est une question pour vous, M. Savary.
J'ai un peu honte. Non mais oui, bon, vous soulevez une question ultra importante et malheureusement un peu complexe, et je ne sais pas si on aura le temps d'y aller, mais oui, vous avez super raison, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait comme traitement ? Et aujourd'hui, on a une évolution qui fait peur, c'est-à-dire qu'on est plus dans la maintenance, stabilisation,
mange ton médicament et n'embête pas le monde, quelque part, et on est moins dans la réhabilitation et autre chose. Effectivement, on est beaucoup moins créatif aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et c'est tout à fait regrettable. Et il y a beaucoup d'expériences très intéressantes qui ont pu être tentées, qui ne le sont plus aujourd'hui. On a une certaine rigidité aussi réglementaire sur les drogues qui produit ça. Quand on regarde les conditions de la prescription d'héroïne, c'est quelque chose de fou, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prouver qu'on est dépendant, il faut prouver qu'on a échoué deux fois un traitement, il faut prouver tout plein de choses pour pouvoir rentrer dans ces traitements, et là on n'est plus dans la réparation du lien, comme vous dites, hein, le lien. Et donc peut-être qu'effectivement un nouveau système avec une relation plus apaisée sur les drogues, avec peut-être des ressources supplémentaires qui viendraient avec la fiscalité, on pourrait peut-être remettre à jour des programmes qui viseraient plutôt à l'indépendance et pas seulement à la maintenance.
Voilà, j'ai encore vu deux mains se lever, je prends les deux, puis après c'est fini. Donc monsieur, et puis ensuite monsieur, oui.
Allez-y. J'aimerais juste parler de la répression. Madame la procureure, il y a des coups d'éclat qui sont faits un petit peu dans certains cantons en Suisse. Ça dure un mois à peu près, et après ça passe aux oubliettes, je veux dire, il n'y a rien qui suit, quoi. C'est reparti comme avant, comme en 14, quoi. Alors quels moyens avez-vous par rapport aux ambitions on voit des gens se faire arrêter en surnombre et qui ressortent au bout de quelques heures, quoi.
Alors, plusieurs problèmes. Ressources policières, ressources judiciaires. Premier problème. Et puis, finalement, il n'y avait pas un problème. Effectivement, vous avez l'impression, vous parlez des opérations de cet été auxquelles, voilà, exactement, nous avons tous participé. Elles ne sont pas terminées. J'en dirai pas plus ce soir. Et les gens, il y a effectivement une impression d'impunité pour vous. Et là, je vous remercie, monsieur, de venir là-dessus, parce que finalement, ce soir, on me tense parce que je souhaite punir, mais finalement, les personnes qui sont concernées par le souci souhaitent qu'on punisse ces dealers. C'est un élément que j'ai pas cité tout à l'heure, parce que punir le dealer, c'est quelque part, des fois, aussi faire un peu de bien au consommateur, parce que le dealer est son pourvoyeur de mal, si je veux faire de la morale de bas étage. Donc, non, ces gens-là ne sont pas impunis. On a un gros problème en ce moment à Neuchâtel, de personnes venant de l'étranger qui n'ont aucun statut en Suisse, et notre code pénal, droit pénal général, nous prive de moyens à cet égard pour des sanctions qui sont difficiles à mettre en place lorsque nous avons affaire à un délinquant étranger sans revenu en Suisse, sans casier judiciaire. Donc si c'est un délinquant primaire, il a en principe du sursis. Et s'il a du sursis pour une courte peine privative de liberté, donc ça ne marche pas. Et une peine pécuniaire, ça ne marche pas parce que ce sont des gens qui n'ont aucun revenu. Donc nous n'avons pas de sanctions dans le catalogue aujourd'hui pour ces gens-là, qui sont des petits trafiquants, je précise pour l'assistance, nous n'avons pas dans le catalogue des sanctions aujourd'hui de moyens de faire autrement, en tout cas pour la première fois. La deuxième fois, ce sont des gens qui prennent des peines de détention ferme, en tout cas à Neuchâtel, fussent-elles courtes, mais il y a des détentions. Alors, troisième problème, j'y viens, il n'y a plus de place en prison. Voilà. C'est une annonce. Nous n'avons plus de place, ce qui veut dire que les courtes peines privatives de liberté ne sont de loin pas l'urgence pour le service pénitentiaire. Et voilà, ce ne sont pas les personnes les plus dangereuses. Donc, elles passent sur liste d'attente et on attend. Et ces personnes-là, parce que je les connais, vous les connaissez, nous connaissons d'ailleurs certainement les mêmes monsieur, eh bien, repassent devant nous à réitérer reprise jusqu'à ce que la détention puisse être exécutée. Le problème étant en tout cas connu, et des solutions ont été proposées. Maintenant, ça appartient aux politiques. Il faut construire des prisons. C'est triste que le procureur de la salle doive le dire, mais c'est comme ça, en tout cas, que ça se passe aujourd'hui.
Alors, je voudrais juste réagir très brièvement à ce qui vient d'être dit. Alors, effectivement, il existe un problème, et on ne le nie pas, on ne l'a pas nié, ni dans notre ouvrage, ni aujourd'hui, quant au problème du trafic dans la rue et du dealer. On rappelle juste que ce problème de trafic criminel, il est intimement lié à la répression et à la criminalisation du produit en lui-même. Alors, On entend aujourd'hui qu'il s'agit de lutter la contre, oui, c'est vrai. Avec Ludivine Ferreira, on est tout à fait convaincu. Simplement, on est convaincu que les moyens qui sont aujourd'hui utilisés pour lutter contre ces dealers de rue ne sont pas des moyens qui sont efficaces. On vient de l'entendre par Madame la procureure. C'est des peines relativement clémentes pour la première fois. En cas de récidive, c'est éventuellement des peines privatives de liberté qui seront de très courte durée, qui ne seront effectivement pas exécutées. Alors, on peut construire des prisons. Quand j'entends ça, je suis toujours un petit peu heurté dans mon sentiment de criminologue. Ce n'est pas quelque chose qui marche. On peut construire des prisons, mais il faudra vraiment en construire énormément pour qu'on puisse mettre tout le monde en prison. Il y a des solutions alternatives et la prison n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Il ne faut pas non plus oublier que, et je le vois actuellement maintenant dans ma pratique aussi, en face de Madame la procureure, il y a pas mal de gens qui mènent un raisonnement purement économique et qui viennent vendre la drogue ici simplement parce qu'on fait un bête raisonnement économique entre le profit et les risques. Et c'est des gens qui sont prêts à accéder à des profits mirobolants, qui plus est quand on ne leur donne pas les moyens de se procurer des revenus de manière légale de par leur statut. Mais ça, c'est quelque chose qui est créé par la criminalisation du produit en lui-même. Et dans une société où les produits ne seraient pas illégaux, on n'aurait pas cet accès à cette ressource. Alors là, c'est, comme on le disait avant, c'est un effet, en médecine on appelle ça des effets iatrogènes, c'est des effets qui sont induits eux-mêmes par la politique qu'on met en place.
Vous me permettez de répondre très brièvement. Je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il s'agit, alors moi je vais le dire, d'un tourisme criminel dans le but clair de gagner de l'argent. Donc en légalisant les stupes, vous allez transférer le problème sur autre chose, ce sera les vols. D'ailleurs, j'ai quelques clients en ce moment, même si je ne suis pas avocate, qui diversifient leur marché et qui font tant des vols que des stupes. Donc on a effectivement, mais ça c'est un autre problème que le problème du débat de ce soir, on a un tourisme qui se fait, des gens qui arrivent ici pour se remplir les poches et qui utiliseront tous les moyens disponibles à leur disponible. Donc il y a les stupes, il y a le reste.
Monsieur, dernière intervention, je suis désolé.
Je demande aux juristes s'il ne faut pas inclure dans cette liste des drogues et des trafics à combattre la drogue de l'argent et les trafiquants de l'argent et ceux qui ont toujours profité des amassements des comptes à richesse en les gérant. Et alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont vendu déjà des choses qui n'étaient pas du tout bénéfiques à notre vie, ni contribuant à notre bonheur. Et on a laissé faire comme ils ont fait un grand profit et amassé de l'argent avec leur commerce. Ils étaient responsables, étaient respectés surtout. Et les juristes se sont jamais demandé s'il fallait peut-être protéger nos pauvres consommateurs un peu plus contre tous ceux qui font leur richesse et vident nos poches.
Merci, monsieur, pour votre intervention. Le stupéfiant trafic d'argent, ça pourrait être un futur café scientifique. Je vous propose de nous arrêter là parce que l'heure passe. Par contre, si vous avez, je vois une main qui se lève avec insistance, si vous avez une question, vous pourriez éventuellement la poser. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc nous arrêter là. Je vous remercie d'avoir participé à ce café scientifique et je vous rappelle que les cafés scientifiques ne s'arrêtent pas en 2013, qu'en 2014, il y en aura également. Le prochain se déroulera le mercredi 15 janvier et il sera finalement l'extension de celui d'aujourd'hui, puisque la question sera enfin, le titre en est « Dopage, le dos de la page ». En d'autres termes, voyons la médaille de l'autre côté et pourquoi pas la légalisation. Vous voyez qu'on est très proche du thème d'aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous au 15 janvier 2014. Bonne soirée, mesdames et messieurs.